Déambulation.
Adi. Mercredi 23 février, 14h, à l'entrée de l'hôpital de Die, se tenait une manifestation en soutien à Barbara, infirmière titulaire. De nouveau suspendue par la direction de l'hôpital de Die, et cela après un premier rendu du tribunal administratif qui annulait la suspension et ainsi donnait raison à Barbara. Bonne écoute.
Bonjour à tout le monde, merci d'être venu ici pour soutenir Barbara par rapport à ce qui lui arrive depuis de longs mois. Je vais juste faire un bref rappel de sa situation et puis après il y aura des prises de parole de la CGT, de Barbara et de Solidaire Femmes parce que par rapport à la problématique qu'il y a féministe au sein de l'hôpital public et dont Barbara est la preuve vivante. Barbara, infirmière à l'hôpital de Die, enceinte et avant l'été, déjà bien fatiguée, elle a consulté plusieurs professionnels de santé qui lui déconseillent de faire la vaccination. Donc elle suit scrupuleusement les différents avis médicaux qu'elle a pu avoir. Refuse de prendre son arrêt maladie avant l'été, pour ne pas laisser ses collègues absorber la charge de travail que l'on connaît tous lors des étés. Donc elle fait les deux mois d'été, juillet, août, et puis en septembre, effectivement, très fatiguée, avec la grossesse, elle décide finalement de prendre son arrêt maladie. Je rappelle qu'à ce moment-là, donc du coup, au 15 de septembre, elle reçoit un avis de suspension, pour ne pas avoir fourni l'obligation vaccinale. Barbara n'aurait pas été enceinte, se serait fait probablement vacciner. Donc le sujet n'était pas ce sujet-là à ce moment-là. Le sujet, c'est que Barbara, femme, infirmière, enceinte, a suivi l'avis de ses médecins qui lui préconisaient de ne pas se faire vacciner. Donc du coup, elle se retrouve sans salaire, sans activité. Elle est obligée d'aller jusqu'à faire un procès en référé suspension au tribunal administratif de Grenoble, où elle a finalement eu gain de cause. Le tribunal administratif condamne l'hôpital de Die à lui verser ses indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir depuis le 15 septembre, puisque l'hôpital de Die a conservé ses indemnités journalières dans une caisse, on ne sait pas où, et en laissant Barbara de septembre à décembre, jusqu'au 23 décembre, sans salaire, zéro, nada. Le 23 décembre, elle voit la somme arriver sur son compte. Jusqu'à là, tout est parfait. Barbara pensait en être sortie. Sauf que le 25 décembre, deux jours après, elle reçoit un second avis de suspension. L'hôpital n'a pas tenu compte, en fait, de la première décision du tribunal administratif. Elle la suspend une seconde fois. Barbara est de nouveau obligée de refaire un référé suspension au sein du tribunal administratif de Grenoble. Tout ça, ça a un coût. Donc, de nouveau, salaire interrompu. Elle gagne donc l'audience fin janvier, 27 janvier, l'audience. Deuxième avis du tribunal administratif qui lui donne une deuxième fois raison. L'hôpital de Die est condamné à lui verser les indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir depuis du coup le 23 décembre. Mais c'est encore pas fini. L'hôpital de Die sont toujours pas satisfaits. Font appel de la décision du juge du tribunal administratif de la première décision de levée de suspension. Qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre que Barbara, pour se défendre, va devoir se défendre en Conseil d'État, puisque l'hôpital de Die a fait appel de la décision. En Conseil d'État à Paris. C'est pas rien, c'est pas le tribunal administratif de Grenoble, c'est le Conseil d'État. Ça veut dire des frais encore supplémentaires. Les frais d'un avocat au Conseil, c'est minimum 3500 euros. Minimum 3500 euros. Donc c'est quand même énorme. Donc nous, Sud Solidaire, Sud-Santé Sociaux et Solidaire, on condamne ces agissements envers Barbara, et qui malheureusement n'est pas la seule. À l'hôpital de Die, comme dans d'autres hôpitaux. c'est vraiment de l'acharnement. On s'acharne. La première fois, on n'y a pas réussi. On fait une deuxième fois. On va jusqu'au bout. On va essayer de l'écraser. La deuxième fois, ça ne marche pas non plus. On va au Conseil d'État. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Que Barbara démissionne ? Voilà. Donc, c'est ce que. Aujourd'hui, si on a décidé de faire ce rassemblement, c'était pour soutenir Barbara, démontrer à Barbara qu'on est là pour la soutenir, qu'on ne la lâchera pas, qu'on sera à côté d'elle et qu'on l'accompagnera dans toutes ses démarches, et de façon à ce qu'elle ne lâche rien, et pour qu'elle puisse se défendre et obtenir gain de cause.
Je m'appelle Barbara et je suis infirmière au CH de Dieppe depuis novembre 2016. Cette manifestation prend peut-être acte de ma situation, mais elle est surtout là pour moi, pour mettre en lumière les pratiques de l'institution hospitalière, et particulièrement de ce qui se passe au CH de Dieppe. Pour ce qui me concerne, je viens avant toute chose de mettre au monde un merveilleux petit garçon. Et aujourd'hui, c'est mes deux enfants qui prennent toute la place dans ma vie. Et je suis ici pour eux aussi. Parce qu'ils ont aussi besoin d'être dans un monde où l'hôpital fonctionne, où l'hôpital prend un minimum soin des personnes qui soignent les autres. Où un pays avec un niveau de vie comme le nôtre pourrait, je pense, avoir un système hospitalier décent, ce qu'il n'est pas, je crois, aujourd'hui. Pour tenter de résumer ma situation, qui a déjà été bien expliquée, mais qui est à l'image de plein d'autres et qui montre bien la maltraitance que l'on peut recevoir dans notre hiérarchie hospitalière, voilà un résumé. En mai, le vaccin commençait à être utilisé. Je n'avais pas très envie de le faire, même si je ne suis pas contre les vaccins et que j'ai tous mes vaccins obligatoires à jour. J'ai eu une méfiance envers celui-là, un doute. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit que je n'avais pas envie de me vacciner et je ne pensais pas y être obligée de toute façon. L'été a passé. Le médecin du service a démissionné, dépité par les conditions de travail de l'hôpital. Les aides-soignantes avec qui je travaille, comme tous les étés, alors que nous avions alerté nos supérieurs hiérarchiques, n'ont pas été remplacées à hauteur des personnes manquantes. Les temps partiels infirmiers dont je fais partie ont travaillé à temps plein pour pallier au congé. Nous avons travaillé avec des médecins remplaçants, les kinés ont été absents et non remplacés. Des patients avec des lourdes pathologies ont été admis. Nous avons travaillé d'arrache-pied tout l'été pour des accompagnements parfois médiocres auxquels nous n'étions pas habitués. Ma sage-femme et ma médecin m'ont proposé tout l'été de m'arrêter, je n'ai pas eu envie. Par contre, début septembre, je me suis retrouvée épuisée et je me suis dit que je ne voulais pas passer ma grossesse dans cet état-là, que je ne tiendrais pas le coup. J'ai donc demandé à ma sage-femme de m'arrêter, ce qu'elle a accepté. N'étant pas sur mon lieu de travail, pas en contact avec les patients, ni avec mes collègues de travail, je me suis dit que je n'étais pas concernée par l'obligation vaccinale. En me renseignant autour de moi, j'ai d'ailleurs 5 médecins qui m'ont déconseillé de me vacciner contre le Covid, au motif que nous n'avions pas assez de recul sur ce vaccin pour les femmes enceintes. Depuis, plusieurs sages-femmes rencontrées au cours de ma grossesse et d'accouchement ont tout à fait compris que je ne me vaccine pas. Les études françaises sur le vaccin et des femmes enceintes n'ont pas été menées et les études américaines ne sont pas faites sur le même modèle que les nôtres et peu fiables selon certaines personnes. J'ai tout de même été suspendue de mes fonctions à partir du 15 septembre alors que j'étais en arrêt de travail. Je n'ai plus de revenus, plus de statut. J'ai fait un référé avec un avocat. Grâce à mon assistance juridique et au syndicat Sud auquel je suis affiliée, qui m'a soutenue. Le tribunal administratif de Grenoble a délibéré en ma faveur en décembre et l'hôpital a été dans l'obligation de me verser mes indemnités. Puis l'hôpital m'a resuspendue immédiatement derrière, a contesté la décision du tribunal en faisant un pourvoi en cassation. J'ai refait un référé et contacté un avocat au conseil pour qu'il me représente dans la procédure de cassation. Cette dernière procédure est toujours en attente. Par contre, le deuxième référé a été délibéré et à nouveau en ma faveur. Et l'hôpital a donc été obligé de me verser mes indemnités, les indemnités de mes arrêts de travail, ainsi que celles de mon congé maternité. En attente du jugement de la cour d'appel, on me demandera peut-être de tout rembourser. Je n'ai jamais pensé faire carrière à l'hôpital. La hiérarchie me pèse, les procédures sont rigides, les conditions de travail sont parfois mauvaises. Et le Covid, qui aurait pu faire prendre conscience que l'hôpital avait grand besoin d'argent et de réorganisation, a mis à genoux les équipes laissées à l'abandon. Ces équipes qui réclament depuis des années des moyens humains et financiers supplémentaires. Cependant, j'aime beaucoup mon travail d'infirmière, j'aime travailler en équipe, et l'hôpital public a un sens pour moi, et cette nécessité d'accueillir tout le monde sans distinction pour les soins. Je n'aurais jamais pensé être tant maltraitée par mon employeur en étant enceinte. Tous les centres hospitaliers n'ont pas suspendu le personnel non vacciné en arrêt de travail. Moi, si. Ils m'ont même suspendu 2 fois, et ce n'est peut-être pas fini, pourquoi pas une troisième fois, une troisième dose. J'ai bon moral, je suis soutenue par mes proches et mon conjoint. Tout le monde ne comprend pas que je ne me vaccine pas, mais par contre, il y a un consensus sur le fait que les agissements de l'hôpital ressemblent à un acharnement. J'en profite ici pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, vous qui êtes ici, mais aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et qui sont présentes de près ou de loin. Et je pense particulièrement au syndicat Sud Santé, à Johan Panquier de l'hôtel Sud de Valence, qui a été présent et super efficace pour m'aider dans ma situation. C'est aussi grâce à eux que j'étais en lien avec un avocat engagé qui s'est démené pour que mes référés soient déposés à temps et faits de la bonne manière. Je ne crois pas que je me serais battue ainsi si ces personnes ne m'avaient pas aidée. Le syndicat était prêt à m'aider financièrement si besoin pour une procédure judiciaire. C'était précieux pour moi de savoir cela et de me sentir soutenue. Et je pense aussi très fort à toutes mes collègues suspendues et pour toutes les collègues qui ont été malmenées d'une manière ou d'une autre par l'institution, en arrêt de travail ou pas, qui sont dans des situations très compliquées qu'il ne faut pas oublier. C'est aussi pour elles toutes que je suis ici. Pour ma situation, je ne comprends pas le but de cet acharnement. Je souhaite retravailler à l'hôpital. Pourquoi agir ainsi lorsqu'on voit que le personnel fuit les centres hospitaliers? C'est bientôt fini. Pourquoi, alors que je ne suis pas en contact avec les patients, les collègues, l'hôpital veut que je me vaccine à tout prix? C'est une incompréhension totale pour moi. J'ai vu mes collègues partir à la retraite avec des salaires de misère parce qu'elles ont passé plusieurs années à temps partiel à s'occuper des enfants. Je ne peux pas faire ici la liste des différences entre les hommes et les femmes dans ce qui devrait changer dans notre quotidien, mais surtout dans nos différences au sein de nos emplois. L'hôpital est employeur d'une majorité de femmes et ne met pas en place tout ce qu'il faudrait pour pallier à tendre vers une égalité. Et si le CH2D était pionnier en la matière, et si on essayait de créer des super conditions de travail pour les soignants, peut-être que cela aurait un impact sur le recrutement. Par exemple, un endroit où des temps partiels sont respectés, où les congés peuvent se prendre facilement, où les heures supplémentaires sont tracées comme il faut et comptées, comme à Valence avec un logiciel, où l'on a accès à notre balance horaire dès qu'on le souhaite, où les plannings sont faits sur du long terme, où il n'y a pas d'alternance jour-nuit, où il n'est pas nécessaire de négocier pour poser ses jours enfants malades, où les arrêts de travail sont remplacés, où il y a une médecine du travail accessible facilement avec un médecin présent. Je n'ai pas envie de me laisser faire. J'ai ce petit enfant qui a grandi en moi et qui est né. J'ai envie de le protéger. J'ai envie d'apprendre à mes fils à ne pas se laisser faire, à se défendre et à réaliser autant que possible ce qui leur plaît et ce qui les fait vibrer. À ne pas se laisser dicter leur conduite par ceux qui se croient au pouvoir et supérieurs, parce qu'il y a des lois et que chacun doit s'y soumettre. Et oui, la vie est injuste et en vrai, les lois ne sont pas les mêmes pour tous. Il faut de l'argent pour aller devant les tribunaux. Mais on n'est pas obligé de tout accepter sans rien dire. Parfois, dire non peut faire changer les choses. Il faut au moins essayer de le dire, ce non. J'ai envie que mes fils aient une belle vie, qu'ils grandissent dans un monde où l'on se respecte, où l'on s'écoute, où l'on discute, où la nature est respectée. Et oui, c'est utopique, mais si on ne se permet pas de rêver un peu, que deviendrons-nous? Aujourd'hui, je ne veux pas baisser les yeux, je ne veux pas baisser les bras. Demain, je démissionnerai peut-être de l'hôpital, je ne sais pas. Ou je continuerai à y travailler si on me laisse le faire et si les conditions de travail ne sont pas trop dures. Mais si je démissionne, cela ne voudra pas dire que je baisse les bras. Mes bras iront faire d'autres choses ailleurs. J'ai envie que l'on continue à rêver ensemble et que nos enfants vivent dans un monde plus beau que celui dans lequel nous sommes. Ou si l'on est malade, on peut se faire soigner qui que l'on soit. Et ce n'est pas impossible.
Je représente la CGT. Je suis sur l'hôpital de Montélimar dans mes fonctions. Actuellement en fonction, mais j'ai été suspendue, donc c'est pas grave. Ça s'est réglé. J'ai suivi un petit peu le dossier de Barbara de loin, puisque au début, au mois de juillet, on a été très, très sollicité pour pouvoir défendre les personnes qui étaient susceptibles d'être suspendues. Puis ensuite, elle a été suspendue, donc on a eu un petit peu des relations juridiques en termes de conseils. Effectivement, on est là à titre CGT pour la soutenir. On est ravis que Sud soit là aussi pour soutenir, que c'est important. Nous, on n'est pas très nombreux à la CGT, mais on est là quand même. C'est bien qu'on joue l'intersyndical là-dessus aussi. Et c'est important, indispensable. Effectivement, le tribunal, c'est un peu particulier actuellement. Il y a des référés qui passent pas, puis tous les référés qui passent, il faut savoir que tous les établissements ont décidé de monter au Conseil d'État. C'est à se demander s'ils n'aiment pas enfoncer le clou, en fait. C'est même pas à se demander. Là où je suis inquiète, c'est que l'ARS les laisse faire. Comment, quand un établissement a tort et a des dus et les paye, comment on les laisse monter au Conseil d'État pour enfoncer encore plus les agents, pour leur faire payer des milliers d'euros alors qu'ils les ont pas? Comment on peut faire ça? Si ça, c'est pas pousser le bouchon, pousser les risques psychosociaux, pousser les gens à aller au fond du trou, les mettre mal et les mettre à mal financièrement, je ne vois pas ce que c'est. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment que ce soit le CNG, l'ARS ou autre structure qui est au-dessus de ces directions d'hôpitaux, je ne trouve pas normal, et ce n'est pas normal, qu'ils cautionnent des recours en cassation auprès du Conseil d'État sur des gens qui ont gagné à la base. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, il faut arrêter de faire des choix dans n'importe quel sens. Je crois que les hôpitaux doivent respecter et les directions d'hôpitaux doivent respecter leurs devoirs. Et le devoir d'une direction, c'est de prendre soin de ses agents et de faire en sorte qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Quant à suspendre quelqu'un qui n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, c'est effectivement hors la loi. Puisque la loi du 5 août prévoit qu'on puisse suspendre des gens qui exercent leur activité. Barbara n'exerçait pas son activité, n'était pas sur son poste de travail. L'abus de pouvoir devient insupportable et j'espère qu'on va pouvoir trouver les moyens financiers pour aider Barbara. En tout cas, on va faire en sorte. Je sais qu'au niveau de l'autre collectif et de l'association 2607 qu'on a créé sur Uni2607 pour pouvoir aider justement toutes ces personnes suspendues, on va pouvoir essayer de mettre en place des actions pour essayer de financer. Et c'est important et on va compter sur la solidarité. En tout cas, on sera là pour la soutenir et on ne lâchera pas comme on fait d'habitude. Et en intersyndical aussi, pour pouvoir avancer plus fort.
C'est du soutien. Bon, la CGT a toujours été contre les discriminations, évidemment. Et là, on en a une locale importante. Cette pauvre infirmière là, qui tombe enceinte, qui a toutes les raisons d'être heureuse. Et puis, on vient lui interrompre sa joie, quoi. Enfin, c'est absolument anormal que, à l'heure où, comme disait Philippe, on manque d'infirmières, à l'heure où l'hôpital, quand même, est un sujet majeur sur notre secteur, on vient encore attaquer l'humain, là. C'est incroyable, quoi. On vit vraiment une époque où il n'y a plus du tout de considération.
En parallèle de cette manifestation en soutien à Barbara, il y a eu aussi d'autres suspensions auparavant, hein, à l'hôpital de Die. Quel est le soutien actuellement de la CGT sur cette réforme, en quelque sorte, qui existe aujourd'hui, et de cette politique? Quelles sont les actions, à part, il y a le pot commun, je crois, qui a été mis en place aussi pour soutenir?
Oui, disons que nous, on s'inscrit dans cette lutte contre la politique qui est menée dans les hôpitaux. Hein. On a vu que même pendant la crise de Covid, il y a quand même 5000 lits qui ont été supprimés, qui s'ajoutent aux 12 000 qui ont été faits dans les 10 ans qui ont précédé. Là. Donc la crise de Covid a été complètement révélatrice de l'état dans lequel se tiennent nos hôpitaux. Hein. Donc si en plus de cet état-là, on en vient à discriminer des infirmières, je veux dire, dans le boulot, c'est quand même une vocation extrême, hein, infirmière. Hein. Je ne sais pas où on va aller. Hein. De toute façon, les Diois se rendent bien compte dans quel état est nos soins locaux. Pour la moindre radio, maintenant, il nous faut faire 80 km. Les urgences, n'en parlons pas. Enfin, l'hôpital est dans une telle pathologie, je dirais, qu'il a besoin d'un grand coup de rénovation, quoi. Ouais.
Vous-même êtes issu aussi du milieu hospitalier, en activité professionnelle?
Pas du tout, non. Non, non. Moi, je travaillais à la gare de Die, mais voilà, on a une solidarité intersecteur, hein, que ce soit chez les actifs pros, que ce soit chez les cheminots, que ce soit. D'ailleurs, on a le souhait de fédérer au niveau de la CGT un peu sur le Diois toutes les forces CGTistes, parce que on est nombreux, mais on est un peu disséminés un petit peu tous dans cette communauté de communes qui est quand même large. Et on a l'ambition, le 1er mai, justement, d'organiser un événement avec tous les retraités, les actifs du syndicat, pour recenser un petit peu la force syndicale qui existe, et puis pour lutter contre toute la dépréciation que connaît notre pays. On vient de le voir avec les impôts, par exemple. On le voit avec l'hôpital, on le voit aujourd'hui donc avec Barbara, on le voit... Enfin, il y a tellement de secteurs... tellement de raisons de bouger dans ce Diois qu'on aime, que on va essayer de fédérer tout ça et de redonner un élan nouveau au syndicat, quoi.
Merci Jean-Claude.
Ouais.
Entendez notre voix, écoutez-nous. Nous sommes les suspendus, les méprisés, les humiliés, les mis de côté. Nous sommes ceux et celles qui ont été vaccinés contre leur gré, pris en otage par de multiples facteurs.
Le foutage de Dieu qui s'appelle.
Tu peux faire un peu moins de bruit.
Pardon. Pris en otage par de multiples facteurs, nous sommes des femmes seules avec des enfants, nous sommes ceux qui ont plié la rage au ventre et celles qui sont parties dépitées, rejetées. Avant le Covid déjà, on vous a prévenu, on a manifesté, on a dénoncé le manque de moyens, d'effectifs. Avant le Covid déjà, on a fait des heures et des heures et des heures, pas payées mais récupérées. On a remplacé des collègues au pied levé, on a bouché les trous, on a bossé en sous-effectif. On a fait de milliers de kilomètres en courant dans les couloirs pour vous soigner au mieux. On a fait des nuits, des jours, on est revenu sur des congés. On a fait garder nos enfants pour être présents à vos côtés. On a pleuré parce qu'on ne pouvait pas faire notre travail correctement. On a exigé, on a menacé, on nous a rayonné. Et puis le Covid est arrivé, on s'est dit ça y est, ils vont comprendre, ils vont faire quelque chose, ils vont remettre des moyens, du personnel et de l'humain.
Quel est ton mot à dire sur les conditions de travail, des temps partiels par exemple ?
Alors sur l'exemple des temps partiels, récemment l'hôpital a reporté les temps partiels. Pas de droit, mais ce qui était quand même nécessaire aux agents, voilà, en leur demandant de passer à 100%. Ce qui est quand même assez dramatique parce que les agents qui font le choix de prendre un temps partiel, c'est pas forcément effectivement de droit, mais c'est des temps partiels nécessaires avec une vie de famille qui s'articule autour. Et là, on oblige ces personnes-là à passer 20% en plus de leur temps de travail sur leur lieu de travail. Voilà. Après, il est monnaie courante à l'hôpital quand, par exemple, pendant les périodes sous tension, comme l'été, qu'on demande au temps partiel d'augmenter leur temps de travail en 100%. C'est une discrimination qui touche essentiellement les femmes, parce qu'en France, les temps partiels sont majoritairement pris par les femmes et souvent pour élever des enfants. Voilà, et c'est des agents qui perdent des années de cotisation à la retraite, mais qui ont fait un choix pour équilibrer vie de famille et travail. Et là encore, on vient remettre en question ce choix.
Voilà. Comment se décrirait pour vous une journée de travail à l'hôpital ? Et est-ce que vous y allez avec de la joie ou alors plutôt un petit peu de réticence ?
On est content de faire notre travail, de soigner les gens, les patients, de prendre soin d'eux, mais on déplore de ne pas pouvoir le faire dans de bonnes conditions. On est un peu désespéré parfois de ne pas avoir le temps de faire des soins corrects, d'écouter les gens, de discuter avec leur famille, de comprendre bien leur situation. Voilà, c'est un peu c'est ce qui nous pèse au quotidien. On aime notre travail, mais on est en difficulté dans les conditions de travail actuelles.
Actuellement, il existe toujours ce plan blanc mis en place ?
Le plan blanc est toujours actif, ouais.
Et ce qui fait qu'il y a des priorités, donc au niveau des salariés, il y a des obligations qui vous sont demandées ?
Eh ben, le report des temps de partiel là, a été justifié par le plan blanc. On n'autorise plus actuellement à l'hôpital de Die les agents à prendre des jours pour garder leurs enfants malades ou des autorisations spéciales d'absence quand ils doivent garder leurs enfants qui ont le Covid. Certains ont été obligés de poser des congés annuels pour s'occuper de leurs enfants.
Ou de se mettre eux-mêmes en arrêt maladie, ce qui n'arrange en rien la situation de l'hôpital. Mais on a l'impression que des choix hiérarchiques sont faits juste pour faire plier les soignants, en fait, et voir jusqu'où on peut aller par amour de notre boulot.
Sous prétexte de manque d'effectifs, on nous impose des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les problématiques de recrutement sont réelles. On a du mal à recruter du personnel, infirmiers, aides-soignantes à l'hôpital de Die. Mais le fait de dégrader les conditions de travail, d'enlever tous les droits qu'on peut avoir, ça n'incite pas les gens à rester ou à venir. On peut préciser simplement qu'on parle au nom du syndicat de la CGT de l'hôpital de Die.
Et donc aujourd'hui, quand même, on était devant l'hôpital à un rassemblement avec Sud Solidaire pour soutenir une collègue enceinte suspendue, enfin une collègue qui a accouché maintenant, mais qui a eu une suspension abusive.
Qu'en est-il des personnels qui ont été suspendus à la rentrée également, dont certaines personnes étaient venues nous en parler à la radio? Je parlais d'aide-soignante, d'une infirmière aussi, et de personnel de l'entretien.
Alors tout d'abord, ça a été un vrai coup de bambou pour ces personnes-là, parce que la suspension dans la fonction publique était assez inédite. À savoir que jusque-là, une personne maltraitante était suspendue, par exemple, avec son salaire. Aujourd'hui, faute de vaccination, on peut être suspendu plusieurs mois sans salaire, sans moyen de subsistance, sans avoir le droit d'aller travailler à côté. Voilà, donc ça a été très dur pour ces personnes-là. Ça a été un vrai coup de massue. Elles ont mis du temps à s'en relever. Elles ne sont pas encore debout. Et à savoir qu'il y a les personnes suspendues, il y a aussi les personnes qui se sont fait vacciner contraintes et forcées, qui ont aussi beaucoup reçu. Et on est encore dans un état de tétanie dans l'hôpital qui est assez flagrant. Et on ne sait pas combien de temps les agents qui sont en place tiendront. Et pour les agents qui sont suspendus, ils commencent à entrevoir d'autres possibilités hors du milieu soignant, ce qui est tout à fait regrettable, parce que pour la plupart, ce sont des soignants qui pensent, des soignants qui sont consciencieux, des soignants qui aimaient leur boulot.
Les personnes qui viennent se faire soigner à l'hôpital donnent leur avis aussi sur ce qui se passe dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, ou est-ce qu'elles le ressentent elles-mêmes justement de cette dégradation de services hospitaliers ?
Bien souvent, les gens sont déjà très reconnaissants des soins qu'on leur apporte et sont assez compréhensifs, en tout cas envers nous. Après, le public en général se mobilise peu quand même pour les soignants, et on a quand même besoin de cette mobilisation du public pour nous soutenir, parce que nos droits à la manifestation et à la grève sont très restreints par notre obligation de continuité de soins. On est gréviste, mais ça ne pénalise jamais les soins. On est toujours assigné, il y a toujours le même nombre de personnes, on travaille toujours en sous-effectif au quotidien, donc ça ne change pas les conditions de travail quand il y a des grèves, et on a besoin que les citoyens se mobilisent aussi avec nous pour faire valoir leurs droits, parce que c'est leurs droits qu'on défend.
Quelle est la vision de Sud sur l'aspect hospitalier d'aujourd'hui ?
La vision par rapport à ce qui se passe, par rapport aux obligations vaccinales, comme Barbara, nous, en fait, notre position depuis le début, hein, c'est très clair. Pour nous, c'est des lois qui sont complètement liberticides. On doit pouvoir laisser la possibilité à chaque être humain de décider de son corps. Et c'est ce qui n'a absolument pas été fait, même si j'ai bien conscience qu'il y a une grosse problématique avec la crise sanitaire, ce qui n'empêche quand même que pour pouvoir injecter une drogue qui n'est encore pas un vaccin, qui est encore pas, il n'y a pas encore eu assez de retours, et de nous l'imposer, je trouve ça quand même très particulier, tout en sachant que au tout prémisse de la crise sanitaire, ça n'a pas gêné le gouvernement de nous laisser travailler, les hospitaliers, sans aucun matériel de protection, sans rien. On avait des sacs poubelles pour se protéger, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de solution hydroalcoolique, enfin on manquait de...
Par rapport à ce que le public a pu constater au début de la pandémie, c'est-à-dire que ce manque de moyens donnés aux professionnels de santé, de protection du moins, qu'en est-il aujourd'hui? Je pense que ça s'est amélioré, mais est-ce que le pouvoir assume ses erreurs, ou alors est-ce que il repose ses erreurs sur le personnel?
Oui, alors en fait, M. Macron a l'air de dire qu'il assume tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Sauf qu'effectivement, dans la pratique, on voit qu'il y a une grosse difficulté. Assumer, ça aurait été de reconnaître que le gouvernement était défaillant en ne fournissant pas le matériel adéquat au personnel hospitalier et autres d'ailleurs, pas uniquement au personnel hospitalier, mais le personnel libéraux, par exemple les pharmaciens, les médecins, les infirmières, etc., qui n'avaient aucun moyen de protection. Assumer ça aurait été de le reconnaître publiquement, et ce qui n'a pas été fait. On a pu voir avec de grosses difficultés que pour avoir du matériel, en fait, ce sont les hospitaliers qui se sont arrangés en collectif pour essayer de trouver de la toile de jute pour fabriquer des surblouses de protection. Le personnel, c'était le grand public, hein, les usagers qui, par solidarité, essayaient de construire des masques tissus pour nous en fournir. Les stocks aujourd'hui, bon, sont là. On a effectivement, il a fallu attendre des mois et des mois avant que le gouvernement puisse commander massivement. Ça aurait dû être une priorité et je ne comprends pas qu'un État comme la France, un pays comme la France, n'ait pas des moyens à disposition pour éventuellement pallier à une crise sanitaire telle qu'on la connaît.
Johan, toi tu fais partie de Sud Solidarité, c'est au secteur de la Drôme.
Oui, c'est ça. Donc, j'appartiens au syndicat Sud Santé Sociaux, Drôme et Ardèche.
Et quel est, justement, j'imagine qu'il y a d'autres problématiques dans d'autres services hospitaliers que celui de Die. Est-ce qu'il y a cette difficulté pour le personnel aussi ?
Ah oui, mais carrément. Mais ça fait des années hein, qu'effectivement tous les syndicats dénoncent les conditions de travail dans l'hôpital public, que ce soit à Die ou ailleurs. Hein. Avec les qui se dégradent de jour en jour, avec l'entreprise, hein, qui l'hôpital n'est plus géré par des soignants, mais géré par des calculateurs, des comptables, des administrateurs, et voilà, qui sont bien loin du soin. Et on le voit tous les jours, et ce qui engendre du coup. Une fuite du personnel parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce pays, dans ce métier-là. Ils se retrouvent plus, ils n'ont plus le temps de soigner dignement. C'est plus possible pour eux. On les presse et on devient, c'est ce qu'on appelle nous, une maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire qu'on est tellement obligé de faire vite avec très peu de moyens qu'on bâcle, on est obligé de bâcler les soins. Et ce qui est très difficile pour un personnel soignant de se dire mais j'ai pas réussi à faire mon soin comme j'aurais dû le faire en respectant la complète dignité de mon patient.
Globalement, c'est le temps qui vous manque ou il y a aussi d'autres manquements ou d'autres carences dans l'organisation ?
Ben en fait, c'est le temps. Mais pourquoi on manque de temps ? C'est parce qu'on n'a pas assez de personnel. Si on avait assez de personnel comme par le passé, et ben effectivement, prendre un soin, s'il faut discuter avec la petite dame qui vient, qui s'est fracturé le col du fémur, qui est très inquiète, qui d'autant plus pendant cette crise sanitaire où les visiteurs, c'était pas possible pendant de longs mois, et ben ça nécessitait de prendre le temps de discuter, de rassurer la patiente. Si avant on pouvait le faire, aujourd'hui c'est complètement impossible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les années passent, il faut qu'on fasse des économies. Et les économies, bah, c'est forcément la plus grosse des économies, c'est sur le personnel.
Cette inquiétude des gestionnaires pour faire des économies, à quel moment est arrivée cette notion dans l'administration hospitalière et comment se faisait-il alors que le service hospitalier allait bien antérieurement, je dirais, des années 80 ?
Oui, c'est ça. Ça fait un peu plus de 30 ans déjà que l'hôpital public va de moins en moins bien. Il y a ce qu'on appelle la tarification à l'activité qui a fait un grand mal à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous fassiez de l'activité pour pouvoir avoir des budgets. Si vous ne faites pas assez d'activité, vous n'avez pas assez de budget. Sauf que les pathologies aujourd'hui sont de plus en plus difficiles. Soigner quelqu'un qui a 30 ans n'est pas pareil que soigner quelqu'un qui a 80 ans. On comprendra aisément que 80 ans, ça va nécessiter beaucoup plus de soins, beaucoup plus de contacts et ce que je vous disais juste avant, de rassurer le patient. Ça, c'est absolument pas pris en compte sur la facturation.
Voilà, il n'y a pas un discernement sur l'âge du patient du point de vue administratif et de la gestion. C'est un sujet, point.
Voilà, c'est par pathologie, c'est-à-dire qu'on estime que pour telle pathologie, c'est 2 jours d'hospitalisation, par exemple. Au bout de 2 jours, eh ben, qu'est-ce qu'on fait de ces patients qui sont seuls à domicile, qui ne sont pas capables de s'autogérer ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh ben, ils ne peuvent pas rester à l'hôpital, il faut qu'on les mette dehors. Il faut qu'on trouve une solution. Et des fois, c'est bien compliqué pour les médecins de leur trouver une solution. Et voilà, aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre soin de nos seniors, de prendre... Et on maltraite la santé en France. Hein. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas une priorité. Contrairement à ce que les derniers gouvernements peuvent dire, la santé, ce n'est absolument pas une priorité. Regardez, posez-vous la question. Regardez et posez la question autour de vous. Qui galère à trouver un médecin, un kiné, une sage-femme, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup de Français qui galèrent. C'est impossible d'avoir un médecin traitant. Pour aller, vous avez une rage de dents, vous voulez voir le dentiste, c'est quasi impossible de trouver un dentiste en urgence, et d'autant plus en urgence. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la France.
Des événements à venir ou des dates à annoncer pour le syndicat Sud Solidarité Drôme-Ardèche?
Alors la grosse journée, hein, la journée nationale de la femme, le 8 mars, où il va y avoir plusieurs mobilisations et auxquelles Sud Santé Sociaux va participer et faire appel à tout le monde et aux usagers, etc., pour venir soutenir les différentes manifestations. Il y en aura une normalement à Die sur l'hôpital et sur Valence, pardon. Voilà, après les horaires restent à définir, mais voilà, c'est grosse journée. On a pointé du doigt ce qui s'est passé avec Barbara sur cet acharnement. Que Barbara a suivi, et on est convaincu qu'effectivement le fait qu'elle soit une femme, elle subit aussi les conséquences de ça. Donc la journée de la femme le 8 mars, elle est importante. Il faut venir, il faut qu'on soit tous et toutes dans la rue pour enfin que les femmes puissent obtenir et qu'on respecte leurs droits.
Et pour cette manifestation qui vous est en fait qui vous soutient pour ce qui vous arrive, c'est-à-dire cette suspension pour des incohérences administratives et médicales en quelque part.
En fait, les motifs vraiment de la suspension de mon travail, en fait, c'est parce que je me suis pas soumise à l'obligation vaccinale, en fait. Donc voilà, je me suis pas soumise à l'obligation vaccinale parce que j'étais en arrêt de travail et du coup j'ai considéré que n'étant pas personnel actif, j'avais pas besoin en fait de me vacciner. J'étais en arrêt de travail avant la date d'obligation vaccinale. J'ai d'ailleurs demandé à l'ARS de me confirmer que j'étais bien, si j'étais soumise ou pas à l'obligation vaccinale. Et j'ai un mail de l'ARS qui me confirme bien qu'en tant que personnel en arrêt de travail, je n'ai pas à être soumise à l'obligation vaccinale.
Et de ce fait, cette suspension vous enlève vos rétributions?
Oui, ça m'a enlevé mes indemnités journalières qui sont liées à l'arrêt de travail. Et ça m'a enlevé mes indemnités journalières en congé maternité, parce que du coup là je suis en congé maternité.
Cette suspension vous amène à quelle situation au niveau familial et même du quotidien?
Et bien du coup j'ai plus eu de rémunération du jour au lendemain, et j'ai pas eu de statut non plus, parce que j'avais commencé à faire un bilan de compétences par exemple avec la NFH, et ça c'est quelque chose que j'ai pas pu continuer de faire parce que ça m'a coupé mes droits de formation en fait. Du coup j'étais dans une situation très... En fait où j'avais pas de statut en fait. J'avais le statut de suspendu. Donc j'ai le droit de rien demander de particulier. Et voilà.
Pour l'avenir, quelle situation voyez-vous, quelle perspective voyez-vous vis-à-vis de l'hôpital et de votre profession?
Eh ben moi, si jamais là les tribunaux me donnent raison, j'ai déjà fait une demande en fait à mon employeur de congé parental d'un an. Donc après mon congé maternité, j'aurai un congé parental d'un an si jamais je suis plus suspendue en fait. Et ensuite je compte réintégrer l'hôpital si jamais ils me resuspendent pas en fait. Mais ça dépend en fait des discussions qu'il va y avoir au niveau des tribunaux. Après, je suis titulaire de la fonction publique, donc si jamais ils veulent me sortir vraiment des effectifs, il faudra qu'ils trouvent de bonnes raisons pour le faire, en fait.
Quel est le soutien existant, d'ailleurs, au sein de l'hôpital pour votre problématique?
J'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes collègues de travail, qui m'ont envoyé des mots, des messages, pour dire qu'elles étaient solidaires de ce qui se passait pour moi. Et après, du coup, je suis affiliée moi au syndicat Sud Santé, et du coup, j'ai eu un soutien du syndicat très fort en fait. Un accompagnement dans les procédures judiciaires, un accompagnement dans tous les questionnements que je pouvais avoir sur comment faire les choses. Et on m'a proposé un accompagnement financier si j'avais besoin aussi pour payer les avocats. J'ai pas eu besoin parce que j'avais une assistante juridique à côté, mais du coup, il y avait cette possibilité-là aussi et du soutien au quotidien, en fait, avec des gens avec qui pouvoir échanger sur la situation.
Oui, Marie, donc moi je représente Solidaires 0726 et la commission femmes de Solidaires. Et c'est pas forcément évident de parler après Barbara parce que voilà, elle a dit beaucoup de choses très, très touchantes. Et puis surtout, elle pointe les sujets dont on a beaucoup discuté avec Johan, mais aussi avec Barbara quand on a préparé ce rassemblement et quand on a évoqué sa situation. Nous, à Solidaires, et en particulier à la commission femmes de Solidaires, ce qu'on souhaite dénoncer, c'est les inégalités, femmes-hommes, bien évidemment, les violences systémiques aussi dont sont victimes les femmes, et les violences économiques sont des violences systémiques. Ce qu'a vécu Barbara, qu'un hôpital, une direction d'un hôpital, la prive de sa rémunération alors qu'elle est enceinte, c'est juste hallucinant. Barbara l'a évoqué, vous travaillez, alors je dis vous parce que moi je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé ou du social, mais vous travaillez dans des métiers qui sont hyper féminisés, où les temps partiels sont monnaie courante et que, a priori, de ce que j'en comprends, c'est difficile de faire respecter ses droits et de pouvoir bénéficier de ses repos, de ses congés, et aussi les rémunérations. Enfin, je veux dire, dans le système hospitalier, dans le système du soin, on dénonce régulièrement la sous-rémunération des personnes qui occupent ces emplois-là. Et ça a été placé dans le débat de manière encore plus prégnante avec la crise sanitaire qu'on traverse depuis 2 ans maintenant. Mais aujourd'hui, il faut bien se dire que si ces métiers sont sous-rémunérés, c'est aussi et principalement parce qu'ils sont occupés majoritairement par des femmes. Alors, vous connaissez les chiffres mieux que moi du taux de féminisation des emplois, mais si aujourd'hui on n'est pas entendu sur les revendications en termes de conditions de travail, en termes d'emploi, en termes de salaire, c'est bien parce que ce sont des femmes qui occupent ces emplois-là et parce qu'on prédispose que les femmes ont des compétences naturelles à occuper des emplois comme ceux-là. Et donc, il n'y a pas besoin de les rémunérer pour ça. Voilà. Ou en tout cas, les rémunérer, mais à minima. Donc, voilà, pour nous, c'était important aujourd'hui d'être là pour soutenir Barbara, pour soutenir toutes les soignantes et toutes les femmes qui peuvent se retrouver dans la situation qu'elle traverse aujourd'hui. Et on est là aujourd'hui, on sera là demain et on sera là tant qu'il le faudra. On est fin février, 8 mars, c'est presque demain. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'organise sur Cray. Peut-être qu'il y a des choses aussi... Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être des choses qui s'organisaient aussi sur Die. Et je sais qu'à Valence aussi, il y a un rassemblement qui est prévu. Et je vous invite toutes et tous à être dans la rue ce jour-là. Je sais qu'à Valence, c'est à 18h, donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera plus simple de se rendre à une mobilisation qui se tient en fin de journée. Même si, voilà, pour nous, pour Solidaires, le 8 mars, c'est une journée de grève, une grève féministe pour nos droits, pour lutter, pour dénoncer les violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient économiques, les violences systémiques et le patriarcat, la domination patriarcale, parce qu'il faut dire des gros mots parfois. Et donc voilà, il y a ces rassemblements qui sont prévus là, donc à Valence, à la Fontaine Monumentale, et on vous invite vraiment à vous y rendre, d'autant qu'on a eu un 25 novembre un petit peu chaud à Valence avec les fachos qui pointent le bout de leur nez, et dans le contexte, ça pourrait bien se reproduire. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit nombreuses, très nombreuses, qu'on soit vraiment une déferlante féministe ce jour-là pour occuper la rue.
Donc, moi, je suis là en tant que collectif de défense de l'hôpital, en fait, en soutien au personnel hospitalier, face à une direction que je dirais inhumaine, ou en tout cas qui fait l'inverse de ce qu'elle peut écrire ou peut dire, ou de ce que nous dit le ministre de la Santé même, puisque on manque de personnel hospitalier en France aujourd'hui, et on voit des directions qui maltraitent le personnel hospitalier. Alors on ne voit pas bien comment on pourrait redorer l'image de l'hôpital public et faire envie aux gens de venir travailler à l'hôpital public avec des directions comme ça. Et je parle bien que de la direction. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour soutenir le personnel qui, lui, travaille efficacement tous les jours.
Je vais juste rajouter un petit point quand même qui nous paraît important. C'est la situation sur Romans-sur-Isère, l'hôpital de Romans-sur-Isère. Dans la même lignée, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais 9 personnels hospitaliers de l'hôpital de Romans, en fait c'est les hôpitaux de Rome-Nord,
ont gagné dans la Drôme, c'était les 9 premiers à avoir gagné au tribunal administratif comme Barbara, pour avoir été suspendus alors qu'ils étaient en arrêt maladie. Ils ont gagné, ils ont donc reçu leurs indemnités journalières, mais l'hôpital de Romande ne s'est pas contenté de ça, ont essayé de les radier, carrément. Donc au mois de décembre, certains ont pu recevoir dans leur boîte aux lettres un courrier recommandé de radiation. Alors la radiation, c'est quoi? En fait, c'est un licenciement. Dans la fonction publique, il n'y a pas de licenciement à proprement dit, c'est des radiations des cadres de la fonction publique. Il a fallu faire un recours aussi au tribunal administratif, qui a été dans le sens des collègues, et le juge a suspendu les décisions de radiation. Mais ça veut dire que derrière, il va y avoir une procédure au fond, ce qu'on appelle une procédure au fond, qui va être jugée d'ici 2 ans ou 3 ans. Voilà. Il n'y a pas qu'à Die, il n'y a pas qu'à Valence, il y a aussi à Romans, il y a plein d'autres endroits. Et là, pour parler uniquement de l'hôpital, mais dans les boîtes de salariés, du médico-social ou du social, il y a eu également, il y a toujours encore ce genre de problème également. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Ce collectif, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est le collectif des soignants des HDN, hôpitaux Drôme Nord. Donc ils sont 7 en tout à aller en Conseil d'État. Ils ont mis une cagnotte en ligne que vous pouvez retrouver donc sur le net pour les aider financièrement à payer l'avocat. Comme on le disait tout à l'heure, l'avocat coûte horriblement cher. Sud Santé Sociaux 2607 participe financièrement à les soutenir pour trouver cet avocat. Solidaire 0726 également. On a Sud Santé Sociaux du 69 qui vont les aider aussi financièrement. Et on a la Fédération Nationale de Syndicats Sud Santé Sociaux qui va acter aussi une somme d'argent pour les aider. Voilà, donc il y a également là-bas, ils ont besoin d'un soutien en versant quelques euros pour leur permettre de se défendre dignement et correctement. Merci à vous. Alors, il reste du café, du thé, des gâteaux, des petits boissons.
Et qui sont nos enfants, la boue. Tu l'as fait, quelqu'un
a un café? Thomas? Reconnaissons les femmes, parlons d'ouvre garçons. Ensemble, nous opprimons les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Le monde, femmes esclaves. Et brisons nos enfants.
Ambulation.